Les dessous de l'infox. Sophie Malibaud.
Bonjour, bienvenue dans les dessous de l'infox. Ce 9 mai à Moscou, les commémorations de la victoire sur l'Allemagne nazie prennent une dimension symbolique inédite. Soucieux avant tout de justifier la poursuite de sa guerre contre l'Ukraine, Vladimir Poutine érige le passé en un récit de propagande visant l'Ukraine et ses alliés. On y revient dans un instant avec notre invité. Les affrontements entre l'Inde et le Pakistan suscitent un torrent d'infox sur les réseaux sociaux, au point d'éclipser le réel. Ce sera la chronique de Grégory Genevrier de la cellule InfoVérif de RFI. Puis cap sur le Cameroun pour parler éducation aux médias avec la journaliste Lorne Ganley, lauréate du prix Emmy 2025 décerné aux Assises du journalisme de Marseille. Mais tout de suite, notre invité. Paul Gogo, bonjour.
Bonjour.
Merci d'accepter de répondre à nos questions depuis Moscou en cette période de commémoration de la fin de la Deuxième Guerre mondiale en 1945, c'était donc il y a 80 ans. Alors vous êtes correspondant en Russie pour plusieurs médias francophones, auteur du livre « Opération spéciale 10 ans de guerre dans le Donbass entre Donetsk et Moscou » aux éditions du Rocher. Alors j'ai évoqué de façon assez neutre les commémorations de la victoire de 45. Qu'est-ce que le 9 mai pour les Russes et comment les autorités présentent ces célébrations?
Pour les Russes, c'est un moment vraiment très émotionnel. On est dans l'émotion, c'est-à-dire que quasiment tout le pays a perdu des proches ou a été touché personnellement par cette Seconde Guerre mondiale. Et donc, il y a un besoin de mémoire et de souvenir qui est vraiment au premier degré, qui est sincère, quoi, qui est voulu par la population. Donc ça, il y a ça d'un côté. Et puis de l'autre, eh bien, il y a un pouvoir russe qui, lui, est très conscient de l'ampleur de l'émotion que ce souvenir suscite et qui voit en cette période la possibilité d'utiliser cette émotion pour exacerber le patriotisme, le nationalisme et finalement essayer de souder la population avec lui-même, lui et ses initiatives politiques et en ce moment, ses initiatives militaires aussi. Et donc aujourd'hui, le 9 mai, en tout cas depuis 2022, voire 2014, c'est un moment où on essaye de créer un lien entre la Seconde Guerre mondiale et la guerre qui a lieu en ce moment en Ukraine. Et pour faire ce lien, eh bien, ça nécessite notamment une réécriture de l'histoire.
Donc aujourd'hui, on met les célébrations de ce qui est appelé la Grande Guerre patriotique comme un outil de propagande pour faire accepter aux Russes la poursuite de la guerre en Ukraine, c'est ça?
Oui, c'est ça. Alors d'un côté, pour leur faire accepter ce qui se passe, et puis même de l'autre, ça va beaucoup plus loin que ça, pour les pousser finalement à aller sur place, à se rendre sur place, à rejoindre l'armée, à combattre au nom de la Russie pour ce qui est présenté comme des intérêts russes. Et donc la réécriture de l'histoire, dans un premier temps, elle est finalement assez basique parce que ça consiste à dire que les Russes ont combattu les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale, qu'on appelle la Grande Guerre patriotique ici, et que finalement le combat contre les nazis ne s'est jamais terminé et qu'il est plus que jamais d'actualité avec les néo-nazis ukrainiens, c'est la rhétorique russe depuis 2014. Donc le lien, il est finalement fait de façon assez grossière, mais en s'appuyant sur l'émotion de ce 9 mai, et ben finalement ce que nous on va considérer comme assez grossier, et bien ça va toucher les Russes. On va leur expliquer que la Seconde Guerre mondiale, c'était pour le coup effectivement une menace existentielle pour l'URSS, le nazisme, et que au même titre, et bien ce qui se passe en Ukraine, avec tout ce qui va derrière, toute la rhétorique, tous les éléments de langage, une Ukraine manipulée par les Américains qui sont et les Occidentaux, Européens de manière générale, hostiles à la Russie, bien finalement, il y a aussi aujourd'hui encore une menace existentielle. Et il faut aller la combattre de la même façon qu'à l'époque. Et donc, ça va très loin, parce que quand je dis de la même façon, c'est que finalement, il faut être prêt à mourir pour la patrie de la même façon aujourd'hui qu'à l'époque. Et donc, il y a vraiment, finalement, c'est un souvenir, la Seconde Guerre mondiale, qui est fantasmé de façon assez morbide, parce que on a même la sensation, des fois, que, il y a un côté, peu importe si vous mourrez au combat, vous êtes mort pour la bonne cause, quoi. C'est de ça dont on essaie de convaincre les Russes aujourd'hui.
Et alors, est-ce que les Russes, le Russe de la rue, si je puis dire, est convaincu effectivement de cette lutte contre le nazisme qui continue, qui doit continuer aujourd'hui, et que c'est le motif effectivement des opérations qui ont lieu actuellement en Ukraine?
Alors forcément, c'est toujours dur de dire si c'est une majorité ou non qui adhère à toutes ces choses-là. Moi, ce que je remarque, c'est que le Kremlin a ressenti le besoin de justifier de plusieurs façons différentes son offensive en Ukraine. Pour certains Russes, ce qui se passe en Ukraine, c'est une lutte contre les néo-nazis ukrainiens. Pour d'autres, c'est une lutte contre l'OTAN. Pour d'autres, c'est une lutte contre les valeurs occidentales, les LGBT en première ligne. Donc, de mon point de vue, le fait que le Kremlin ait eu besoin de varier finalement les explications de ses manœuvres en Ukraine montre que tout le monde n'adhère pas à ce sujet-là, enfin à cette vision des choses-là. Pour autant, il m'est arrivé assez régulièrement et encore quelques minutes avant que nous nous parlions de discuter avec des Russes qui parfois vont développer des théories en allant assez loin. Là, le jeune que j'ai rencontré tout à l'heure, lui m'expliquait que après la Seconde Guerre mondiale, on avait décapité le régime nazi, mais que la population, elle, avait continué à vivre avec ses idées et que finalement le nazisme n'était jamais vraiment mort et que aujourd'hui plus que jamais, eh bien c'était encore l'URSS, encore la Russie, donc qui était en première ligne pour dénazifier le monde. Et lui adhérait vraiment à cette position là sans jamais remettre en question l'attitude de son pays, sans même jamais remettre en question les idées de son président et finalement l'idéologie nationale qu'on a aujourd'hui, qui repose sur une nostalgie du communisme. Mais en fait, cette nostalgie du communisme, elle est utilisée pour créer une sorte de nationalisme radical. Et ça, en Russie, personne, ou en tout cas, j'ai très rarement rencontré des gens qui m'ont dit « Oui, notre gouvernement, l'idéologie de notre pays, elle est nationaliste aujourd'hui, elle n'est plus communiste. » Donc il y a vraiment cette idée qu'ils ne peuvent pas être nationalistes, ils seront au pire communistes à vie, mais en tout cas, ils seront antifascistes à vie et donc ils ne peuvent pas être du mauvais côté de l'histoire.
Est-ce que vous diriez que le Kremlin est parvenu à rayer de la mémoire la contribution des alliés à la victoire contre le nazisme?
Eh ben, on se demande effectivement si parfois ce n'est pas un peu l'objectif. Il s'est passé quelque chose d'assez intéressant il y a quelques jours. Donald Trump, qui finalement, des fois, s'emploie aussi un peu à la réécriture de l'histoire, a fait toute une série de déclarations pour expliquer que finalement, c'était les Américains qui avaient eu le rôle le plus déterminant, le plus important pendant la Seconde Guerre mondiale. Et ça a donné lieu à une sorte de joute de réécriture de l'histoire entre Moscou et Washington, parce que les Russes, qui eux sont en plein dans leur période du 9 mai, ont vraiment répondu instantanément, quoi, en expliquant « Non, nous, on vous a sauvé, on a sauvé l'Europe, on a sauvé tout le monde, et on aurait pu se passer des Américains. » C'est aussi ça, la rhétorique russe. Et, OK, les Américains sont venus contribuer à la lutte contre le nazisme, mais en fait, on aurait très bien pu faire sans eux. Donc, il y a vraiment cette idée de dire que, finalement, ce sont les Soviétiques. Alors, eux, ils disent Soviétiques, mais en fait, ils entendent Russes, ce qui déjà est en soi un peu une réécriture de l'histoire, parce que l'armée rouge n'était bien sûr pas composé seulement de Russes, mais bref, que les Soviétiques ont combattu et ont anéanti le nazisme en Europe, et que finalement ils sont plus ou moins les seuls à y avoir contribué, ce qui mène parfois à des discours qui vont considérer, par exemple, que les Français n'étaient seulement que des collaborateurs ou que des gens qui n'ont pas voulu se battre contre le nazisme, des réécritures de l'histoire qui peuvent être parfois assez violentes.
Alors, dans une tribune publiée il y a quelques jours par le journal Le Monde, un collectif d'historiens dénonce donc la façon dont Moscou réécrit l'histoire et notamment celle du déclenchement de la Seconde Guerre mondiale qu'ils attribuent à la Pologne. Alors qu'en 1939, c'est l'Allemagne nazie qui a attaqué la Pologne et qu'à l'époque, l'URSS de Staline était encore allié de l'Allemagne de Hitler. Est-ce que les Russes ont oublié les faits?
Oui, ça a été, par exemple, alors ce fait-là, c'est certainement le plus frappant dans cette réécriture de l'histoire, il a été complètement effacé. Il y a un monsieur en Russie qui est l'ancien ministre de la Culture qui, il y a maintenant 2 ans, a été chargé de réécrire les livres d'histoire qui sont distribués ensuite dans les lycées et les collèges. Et cette partie, par exemple, de l'histoire, notamment le pacte Molotov-Ribbentrop, est totalement effacée des livres d'histoire. Et c'est quelque chose dont on ne parle pas, c'est quelque chose pour les Russes qui n'a pas existé.
Donc les enfants n'ont aucune chance, les générations à venir n'ont aucune chance de pouvoir connaître la réalité du déclenchement de la Seconde Guerre mondiale.
Oui, c'est ça. Et c'est forcément Moi, pour être correspondant en Russie depuis quelques années, ça fait partie des choses les plus troublantes et les plus effrayantes parce que, eh bien, finalement, le temps passe. Le même régime dirige ce pays, le même régime réécrit toujours plus l'histoire et puis, bah, ses enfants, ils grandissent en ignorant une partie de leur propre histoire ou avec une vision déformée de leur propre histoire. Parce que, en plus, d'un côté, il y a la réécriture de l'histoire. Mais il y a aussi ce qu'on considère ici comme la réécriture de l'histoire instantanée. En gros, c'est la désinformation. C'est-à-dire qu'on pense à ce que l'histoire retiendra de ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine. Et donc, en ayant ça en tête, eh bien, le Kremlin utilise toute une stratégie pour désinformer et imposer son narratif et faire en sorte que l'on retienne que certaines choses dans tout ce qui se passe aujourd'hui. Et donc, ces enfants vont grandir finalement avec une désinformation qui va du déclenchement de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à la guerre actuelle. Moi, c'est ce qui m'effraie le plus, que dans quelques années déjà, il y aura certainement une génération qui vivra sur une autre planète que nous, parce qu'ils n'auront pas du tout grandi avec les mêmes repères historiques, enfin les mêmes repères de manière générale, et notamment les mêmes notions historiques que nous.
Ignorant par exemple que dans l'armée rouge, à l'époque, il y avait des Ukrainiens, puisque l'Ukraine faisait partie de l'URSS. Donc il y avait, je crois, quelques 5 millions de combattants ukrainiens dans l'armée rouge.
Oui, les Ukrainiens étaient très nombreux, en fait, dans l'armée rouge. Mais alors, sur ce point-là, la réécriture, c'est pas là que la réécriture est la plus, on va dire, la pire, dans le sens où le Kremlin peut aussi parfois renverser la chose, quoi, en disant, mais vous voyez, on a combattu ensemble le nazisme. Et donc, déjà, c'est la preuve que nous sommes deux peuples proches l'un de l'autre. Et puis, c'est la preuve aussi qu'à l'origine, les Ukrainiens, ils étaient bien. Et que finalement, les Américains sont arrivés. Ils ont pris en otage avec leur argent et leur déstabilisation politique le peuple ukrainien. Mais en gros, la rhétorique du Kremlin va expliquer que le peuple ukrainien est du côté de la Russie. Mais qui ne le sait pas, en gros, parce qu'il est manipulé par les États-Unis. Donc, on peut utiliser aussi cette partie de l'histoire, qui ça relève quand même de la réécriture, mais pour dire, vous voyez, ben, en fait, il y avait beaucoup d'Ukrainiens qui ont combattu avec nous, la preuve que nous sommes proches, et la preuve que quelqu'un les a manipulés, parce que c'est pas naturel qu'ils se retournent contre nous.
Alors, les historiens, comment vivent-ils aujourd'hui en Russie? Ils sont soit obligés de faire la propagande du régime, ou bien y en a-t-il qui peuvent faire leur travail malgré tout? Y a-t-il de la résistance?
C'est une vraie question aussi, parce que finalement, ils ont été victimes du régime assez tôt, parce que les réécritures de l'histoire a été estimée nécessaire assez rapidement, finalement, pour le Kremlin. Et le fait est que maintenant, c'est comme des politiciens d'opposition, c'est devenu impossible de travailler une histoire honnête et basée sur des recherches. L'ancien ministre dont je vous parlais tout à l'heure, dont le travail maintenant consiste à réécrire l'histoire, moi, j'ai eu l'occasion de le rencontrer une fois, et lui, en fait, s'est entouré d'historiens qui vont dans son sens. D'autres ont été emprisonnés, d'autres ont été poussés à l'exil, ceux qui ne pensent pas comme lui. Et finalement, le dernier acte de rébellion qu'on ait pu voir de ces historiens, c'est lorsque justement cet homme qui s'appelle Vladimir Medinsky a été nommé à ce poste, et que des historiens ont rappelé que sa thèse à cet homme avait fait l'objet de copier-coller. En fait, il avait triché pour écrire sa thèse, et elle était, paraît-il, de très mauvaise qualité, et donc il avait triché pour pouvoir obtenir tous ses diplômes. Et donc les historiens avaient fait une lettre commune à cette époque-là pour dénoncer le manque de professionnalisme de ce politicien. Forcément, ce sont les historiens qui ont eu des problèmes derrière. Tout le monde a perdu son travail et lui, finalement, continue sa vie politique sans problème. Mais effectivement, beaucoup de ces historiens aujourd'hui vivent à l'étranger parce que c'est plus possible de tenir un autre discours que le discours officiel en Russie.
Merci beaucoup, Paul Gogo, en liaison depuis Moscou, correspondant en Russie pour plusieurs médias francophones et auteur du livre « Opération spéciale », 10 ans de guerre dans le Donbass entre Donetsk et Moscou aux éditions du Rocher.
Les dessous de l'Infox sur RFI.
Deux pays qui s'affrontent sur le plan militaire et un emballement de la désinformation sur les réseaux sociaux, c'est bien ce à quoi l'on assiste en Asie du Sud dans le conflit qui oppose l'Inde au Pakistan depuis l'attentat du 22 avril au Cachemire. Alors ces affrontements, les plus graves depuis deux décennies, s'accompagnent d'une véritable guerre de l'information. Bonjour Grégory Genévrier.
Bonjour Sophie.
Vous avez repéré sur les réseaux sociaux une accumulation de fausses informations, qu'il s'agisse de comptes pro-indiens ou pro-pakistanais, les publications mensongères prennent quasiment le dessus sur les éléments factuels dont on dispose à ce stade.
Oui, si vous cherchez à vous informer sur la situation en cours sur les réseaux sociaux, vous allez forcément tomber sur des fausses informations. C'est simple, quand on tape Inde ou Pakistan sur X, Facebook ou TikTok, les premières images qui sortent sont fausses ou sorties de leur contexte. L'un des exemples le plus marquant, c'est une vidéo vue plusieurs dizaines de millions de fois. On y voit un canon anti-aérien au sol en train d'essayer d'abattre des avions de chasse. La légende parle d'un avion de combat pakistanais Chengdu JF-17 prétendument abattu par la défense solaire indienne.
Sauf que ces images ne sont pas réelles.
Eh bien non, vérification faite, cet extrait est issu d'Arma 3, un jeu vidéo de simulation militaire ultra réaliste, régulièrement détourné pour partager de fausses images en temps de guerre. D'autres extraits de ce même jeu sont partagés par des comptes pro-pakistanais pour illustrer à tort la destruction d'un rafale de l'armée de l'air indienne dans le ciel pakistanais. Pour se rendre compte de la supercherie, il faut observer attentivement les fumées, les flammes et les explosions, éléments qui ne collent pas vraiment avec la réalité.
Et à cela s'ajoutent aussi les images sorties de leur contexte.
Oui, alors que nous sommes en plein brouillard de la guerre et que les documents authentiques se font rares, le besoin de mettre des images sur ce qu'il se passe sur le terrain pousse des utilisateurs à recycler de vieilles images. Raison pour laquelle des vidéos filmées dans la bande de Gaza, au Yémen ou au Liban sont diffusées en masse pour illustrer à tort la situation entre l'Inde et le Pakistan.
Alors on n'oublie pas non plus les images générées par intelligence artificielle. C'est devenu maintenant une habitude, surtout en période de conflit.
Oui, une vidéo montrant la carcasse d'un avion de chasse soulevé par un hélicoptère et un cliché satellite censé montrer des rafales indiens ont fait le tour des réseaux sociaux en milieu de semaine. En réalité, pourtant, ces images ont été générées par une intelligence artificielle. À noter aussi que sous des documents authentiques, certains comptes de propagande sèment le trouble en affirmant à tort qu'elles auraient été produites par une IA.
Alors cette désinformation massive, vous nous dites qu'elle est particulièrement nocive.
Extrêmement nocive même, oui, d'abord car toutes ces fausses publications invisibilisent les quelques vraies images de ce conflit. L'analyse des commentaires montre que ce flot continu d'infox altère les perceptions et radicalise les esprits. Cette bataille numérique entre l'Inde et le Pakistan est un énième exemple que chaque guerre sur le terrain s'accompagne aujourd'hui d'une intense guerre numérique. Chaque camp tente d'imposer sa mise en récit à coups d'infox, le tout au détriment de l'information fiable et vérifiée.
Merci Grégory Genevrier. Votre chronique est à retrouver en images sur notre site RFI.fr ou sur l'application RFI Pure Radio. Alors on comprend en tout cas, à travers cet exemple de désinformation massive, l'importance de l'éducation aux médias.
On en parle.
Contre la désinformation en ligne, l'éducation aux médias reste le meilleur rempart. De plus en plus de journalistes s'y consacrent sur le continent. Laura Nanglais, votre organisation à vous s'est distinguée dans ce domaine. Vous êtes camerounaise, vous avez remporté le prix de l'EMI, l'éducation aux médias et à l'information aux assises du journalisme qui se tenaient à Marseille la semaine dernière. Est-ce que vous pouvez nous décrire votre organisation ?
Bonjour, merci beaucoup pour cette invitation. Je suis Long Anglé, membre d'une association des jeunes enregistrée au Cameroun appelée Civic Watch. Et dans le cadre de nos activités et de nos interventions, nous avons l'un de nos projets phares, Africa Fact Checking Fellowship, qui est une bourse de vérification des faits en Afrique. Et en plus de cela, nous ne faisons pas simplement des bourses ou des formations, mais nous produisons également des matériels didactiques qui aident à sensibiliser les jeunes, les femmes, les hommes, au fait, toute personne qui est sur Internet, sur l'utilisation responsable des réseaux sociaux.
Si on veut voir aussi votre production, parce que vous produisez, il y a le hashtag 237check, où là, vous publiez de véritables fact-checking.
Oui, notre plateforme d'information 237check nous aide à informer, à sensibiliser et à éduquer tous ceux qui s'intéressent aux questions relatives à l'éducation aux médias et à l'information. Généralement, nous ne pouvons pas aller vers tous les utilisateurs, nous ne pouvons pas aller dans toutes les communautés, faute de moyens ou de temps. Donc, nous avons mis à leur disposition cette plateforme où nous publions nos articles de fact-checking. Mais en plus des articles de fact-checking, nous avons également ce que nous appelons les social media health reports, où on fait un peu un état des lieux, des tendances virales. on essaie de voir qu'est-ce qui est viral, qu'est-ce qui est à la une, qu'est-ce qui fait parler les gens en ligne, et on essaie de voir l'impact que cette actualité peut avoir même sur les communautés. Par exemple, au Cameroun, on a eu beaucoup de travail autour des questions relatives à la santé. Ou par exemple, il y a une épidémie de choléra et il y a des gens qui s'auto-déclarent docteurs et ils vont en ligne, ils commencent à distribuer des remèdes ou des moyens par lesquels les gens peuvent se protéger. Et généralement, dans notre travail consiste à voir ce qui fait l'actualité, comment est-ce que cette actualité peut nous aider soit à avancer, ou on a eu des certains cas où il y a une actualité qui peut porter ou générer même des conflits dans les différentes communautés où des gens exercent. Mais notre troisième volet, c'est des rencontres que nous organisons dans des communautés où nous envoyons nos boursiers à aller dans des communautés, à faire des sessions de restitution avec les différents groupes, que ce soit des femmes, des jeunes, dans les églises et même dans les lieux les plus reculés où nous ne pouvons pas accéder. Donc, sur cette plateforme, donc, nous essayons un peu de montrer le travail que nous faisons, mais nous accompagnons aussi ceux qui aimeraient justement se lancer dans cette démarche de lutte contre la désinformation en les mettant à leur disposition l'information qui pourra les aider.
Quelle distinction vous faites entre fact-checking ou journalisme de base ?
Bon, le fact-checking et le journalisme, ça, c'est les deux bons de pair. On dirait juste des jumeaux. Et le journalisme, à la base, appelle à vérifier, appelle à être capable de montrer ou de démontrer ce que l'on a retrouvé sur le terrain en faisant sa collecte. Maintenant, je dirais tout simplement que le fact-checking vient juste de renforcer le travail que font les journalistes. Avec le fact-checking, aujourd'hui, on met beaucoup plus l'emphase sur la présence des preuves. Il y a par exemple des cas où des journalistes font des journalismes d'investigation où ils ne peuvent pas révéler leurs sources. Mais en fact-checking, il y a l'aspect de transparence qui demande à ce que vous démontrez ce que vous avez fait, comment vous l'avez fait, mais cela ne se limite pas simplement à vous, mais cela doit permettre à votre lecteur de pouvoir aussi suivre les mêmes procédures et d'atteindre les mêmes résultats.
Vous traitez quelquefois de sujets très sensibles parce que la désinformation peut avoir quelquefois un impact dangereux.
Oui, très dangereux, surtout dans le cadre des zones où nous avons des conflits, par exemple au Cameroun. Lorsque nous regardons la crise anglophone qui sévit dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, on a vu des cas de propagande, on a vu des cas de désinformation. On a vu des cas où des vidéos étaient circulées en ligne et portant un message qui n'avait absolument rien à y voir. On a vu des cas où des séparatistes ont même propagé des infos en faisant croire qu'ils avaient le soutien d'autres pays, ils avaient des armes, ils avaient une monnaie, ils avaient ceci et cela. Donc, un peu pour s'auto-déclarer indépendant, ce qui a justement, on ne le dira pas assez, mais qui a sûrement attiré d'autres jeunes à vouloir se ranger de leur côté. Mais de l'autre côté aussi, on voit une autre propagande du côté, peut-être, je vais dire quoi, du gouvernement qui dit « nous avons été dans telle localité, nous avons pu faire telle ou telle chose ». Donc, en cas de guerre ou de conflit, on a beaucoup de désinformations qui circulent parce que chaque partie veut montrer que c'est moi qui suis à l'avant, c'est moi qui gagne ou c'est moi qui est le déçu en termes de, je sais pas, des réalisations ou de victoires sur le terrain. Mais nous avons aussi constaté qu'au Cameroun, lorsqu'on parle de désinformation, c'est beaucoup plus des attaques sur la base des religions, sur la base de l'appartenance tribale ou de l'ethnie, où on a des groupes qui sont attaqués tout simplement parce qu'ils sont peut-être définis d'une certaine manière ou ils sont présentés d'une certaine manière. Et sur le plan politique, on l'a vu en 2018, ce n'était plus l'agenda politique qui était mis en avant, mais des attaques contre des candidats sur la base de leur appartenance ethnique ou leur religion.
Ce que l'on a vu il y a tout juste une semaine avec la sortie du classement mondial de la liberté de la presse par Reporters sans frontières, c'est que donc votre pays, le Cameroun, se situe à la 131e place sur 180 pays. Quelles difficultés cela représente pour vous, l'exercice de ce métier de journaliste fact-checker?
Le premier problème que la plupart plupart de nos boursiers ont généralement rencontré, c'est l'accès à l'information. Et malheureusement, nous sommes encore au stade où on espère encore avoir une loi ou un cadre légal qui régit justement l'accès à l'information au Cameroun. Si vous voulez faire ne serait-ce que le journalisme même, vous devez vous baser sur des faits. Vous devez vous baser sur des éléments concrets. Et lorsque vous n'avez pas cette capacité, vous allez vers une institution, on vous dit, on attend l'ordre de la hiérarchie pour vous donner une info. Vous allez pour interviewer quelqu'un, la personne vous donne l'info mais ne veut pas être citée. Ça, c'est dans le cadre du journalisme simple où vous êtes même capable de protéger votre source. Mais maintenant, parlant du fact-checking, on a eu tellement de sujets qu'on a été obligé d'abandonner. Je me rappelle, il y a eu un cas où mon collègue et moi, celui qui coordonne notre bourse de fact-checking Donald, on était souvent poussés à prendre une décision. Est-ce qu'on avance? Est-ce qu'on on s'arrête? Mais on ne peut pas aussi publier sans l'autorisation. On a une personne, on va vers une personne qui nous dit, oui, effectivement, voici la situation, mais ne me citez pas. Et en fact-checking, on ne peut ne pas citer la personne. Donc, quand il n'y a pas cet espace de, je vais dire quoi, de confiance entre le public et les autorités, entre ceux qui gouvernent et ceux qui sont gouvernés, c'est souvent un peu difficile de pratiquer le fact-checking. Jusqu'à présent, on se bat, on se bat au maximum. On essaie un peu de regarder des sujets sur lesquels les gens se sentiront plus à l'aise. Comme par exemple, vous allez voir sur notre plateforme, il y a beaucoup d'articles de fact-checking sur la santé où on parle du paracétamol qui cause ceci, où on parle du vaccin contre le palu. Il y a des théories de complot qui disent que c'est fait pour réduire la fertilité chez les jeunes et autres. Bon, là, les docteurs sont libres de parler et ils savent qu'ils ne font que leur profession.
Et c'est
mais
tout
lorsque
à fait,
ça ouais. touche à la politique, lorsque ça touche peut-être à un sujet sensible où on a besoin vraiment peut-être d'une autorité d'État ou peut-être des ministères même, on a des gens qui sont prêts à parler mais qui refusent absolument. Maintenant, peut-être avec l'existence d'une loi, ils vont se sentir plus à l'aise, peut-être même sans la loi. Je crois qu'il y a nécessité de mieux éduquer les personnes, que ce soit des autorités publiques et autres, et même des particuliers, sur l'importance même de pouvoir donner une information qui pourra aider justement à améliorer le travail que font les fact-checkers ou les journalistes.
Alors, on vous souhaite très bonne continuation. Lorne Gandley de AFF Cameroun, récompensée donc dernièrement par le prix de l'éducation aux médias et à l'information. Les dessous de l'Infox, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à nos invités et chroniqueurs, ainsi qu'à Hélène Avril à la réalisation. Pour retrouver l'émission en ligne ainsi que nos vérifications, je vous invite à taper Info Vérif RFI dans un moteur de recherche. La semaine prochaine, vous retrouverez Olivier Four à la présentation des dessous de l'Infox. Mais tout de suite, je vous laisse en compagnie de Philippe Le Caplain.
Merci à vous Sophie Malibaud pour les dessous de l'Infox. À retrouver bien évidemment sur le site internet de Radio France Internationale. RFI dans un peu plus d'une demi-heure, ce sera Afrique Soir avec vous Arthur Ponchelet. Vous reviendrez sur la première journée du pape Léon XIV.
Et sur cette messe célébrée dans la chapelle Sixtine, on va surtout continuer d'éplucher le CV de ce nouveau souverain pontife qui s'est rendu à plusieurs reprises en RDC. Léon XIV a longtemps été prieur général de l'ordre des Saint-Augustins et on l'entendra, il laisse un souvenir ému aux fidèles qui l'ont rencontré. Ils racontent leurs larmes de joie à l'annonce de cette élection.
L'actualité africaine, c'est également au Tchad qu'elle s'est écrite aujourd'hui avec deux condamnations.
Celle d'Idriss Youssouf Boy d'abord, l'ancien bras droit de Mahamat Idriss Déby écope de 50 prisons pour corruption passive. Son accusateur, l'homme d'affaires Abou Hakim Bouder, écope de la même peine, mais lui pour corruption active.
Et puis à partir de 18h30 en temps universel, le Mali avec ses enlèvements et tentatives d'enlèvement de plusieurs hommes politiques.
Et ce alors que le rassemblement prévu aujourd'hui à Bamako a été reporté par plusieurs dizaines de partis politiques. Ils devaient défiler pour dire non à la suspension des activités politiques décrétées par la transition. Ils parlent de manœuvres visant à provoquer des affrontements violents lors du rassemblement prévu.
Le Gabon également, la une d'Afrique Soir avec le premier conseil des ministres du nouveau gouvernement.
C'était hier l'occasion pour le président Oligui Nguema de renouveler ses principaux collaborateurs. On verra qui sont les nouvelles tête autour du président gabonais.
Arthur Ponchelet, on vous retrouve tout à l'heure. Avant cela, dans une trentaine de secondes, ce sera un nouveau journal international.